Force Info.
Et une nouvelle fois, cette semaine, des femmes ont pris la parole pour mettre en lumière la violence sexiste et sexuelle de leurs confrères masculins dans l'armée et dans le milieu hospitalier, on va y venir. Dans l'armée, Manon Dubois a dénoncé des violences sexuelles quand elle était dans la marine. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a justement annoncé vendredi une mission pour améliorer la prévention, la protection des victimes et les sanctions contre les agresseurs. Voici la réaction de Manon Dubois en exclusivité sur France Info.
C'est à la fois une satisfaction et à la fois un petit pincement parce que je me dis, mon Dieu, il a fallu qu'on en arrive là pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Évidemment que j'espère que les choses changent, mais j'espère surtout qu'elles évoluent et dans le sens positif du terme. Le fait qu'ils disent qu'il n'y ait pas besoin de récidive et qu'ils appliquent réellement tolérance zéro, c'est ça qu'il fallait faire dès le début en fait. Évidemment que j'aurais aimé ça pour moi, évidemment que j'aimerais ça pour d'autres. Mais justement, ça va permettre à ce que... il n'y ait plus ça à l'avenir et qu'ils appliquent réellement cette sanction. Après, j'aurais tendance à dire qu'il y a des choses à pas faire de la façon dont ils veulent faire, comme par exemple mener leur enquête, mais qu'avec des personnes issues de l'armée.
Amélie Le Breton, une nouvelle fois, il faut une prise de parole forte avant d'avoir des réactions. On a l'impression qu'on n'avance pas beaucoup, finalement.
Ah non, mais c'est même catastrophique ce qui se passe, parce que ça fait des années que le premier MeToo s'est exprimé, a explosé, et on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'onde de choc dans toute la société. C'est comme si il n'y avait pas d'effet domino. Il y a encore des pans entiers, il y a des métiers entiers, et on parle de milliers de personnes qui ont vécu, ou qui vivent encore dans une organisation qui donc serait sexiste. J'ai été assez frappée. Il y a eu l'intersyndicale nationale des internes qui avait mené une enquête en 2022-2023 avec 4000 réponses, et la moitié des jeunes femmes internes et externes témoignaient avoir constaté de remarques sexistes. 18% disent avoir subi du harcèlement sexuel.
On parle de la santé là, du milieu hospitalier.
On parle de la santé. Reprécise. Ce que je veux dire, c'est que on est encore en 2024. C'est comme si on découvrait, voilà, on sort, on ouvre le capot et on se rend compte que c'est encore du grand n'importe quoi dans des secteurs, alors que ça devrait. La conscience et la réflexion sur ces questions-là, elles devraient infuser depuis très longtemps. Ça devrait presque être un problème réglé.
Et on parle encore de comportement grivois alors qu'il est question d'agression sexuelle.
Alors, c'est là où on y reviendra peut-être. Il y a deux choses. Il y a effectivement, dans le milieu de la santé, ce qui se passe avec Karine Lacombe qui a fait des révélations et avec
l'infectiologue.
Voilà, exactement. Et avec M. Pelloux. Mais dans le... voilà, ce qui est certain, c'est déjà de se dire, il va falloir qu'il y ait une réflexion sur tous les métiers, sur tous les axes de la société française, pour qu'il n'y ait pas de nous, quand on se dise pas dans 6 mois, il y a encore une affaire MeToo dans un métier qu'on n'avait pas encore imaginé. On a eu le cinéma, le sport, l'hôpital. Ce serait bien qu'en fait, ce soit juste toute
les
la
médias,
société qui prenne,
médias,
voilà, qui prenne enfin conscience qu'il y a un problème et il faut que ça s'arrête.
François Hernandez.
Non, mais ce soir, on évoque l'armée, l'hôpital. Les caractéristiques de ces deux institutions, ce sont deux institutions où les hiérarchies sont écrasantes et pesantes. Et on peut dire que les plaintes qui remontent, là, relèvent le caractère systémique, qui ne veut pas dire systématique. C'est le système avec un chef adulé, etc., une hiérarchie valorisée sans cesse et l'absence de débat interne. Toutes les institutions, ça a commencé dans l'Église avec la sacralisation du prêtre, toutes les institutions qui placent à leur sommet des gens qui ont des statuts exorbitants du droit commun s'exposent à rencontrer des situations comme ça. C'est des systèmes de domination qu'il faut condamner. La domination, elle s'exerce sévèrement là sur les femmes, mais le système global est pervers.
Ouais. Alors justement, vous avez commencé à évoquer le monde de la médecine, donc on va y venir, puisque vous l'avez dit, la prise de parole de l'infectiologue Karine Lacombe a beaucoup fait parler. Elle a dénoncé le comportement supposé problématique de l'urgentiste Patrick Pelloux, qui parle aujourd'hui de diffamation. La fédération hospitalière, pointée du doigt par plusieurs soignants, réagit pour la première fois. C'est aussi sur France Info. Sa déléguée générale, Zénab Rillet, assure lutter pour une libération de la parole depuis plusieurs années.
Dès mon arrivée en 2018, j'ai voulu et nous avons voulu lever deux tabous. Le premier est le tabou des relations confraternelles et lever le tabou sur la violence, les violences sexistes et les inégalités au sein des études de médecine, ce qui nous a d'ailleurs conduit à ouvrir un débat en mai 2018 sous le thème « Touche pas à mon étudiante ». Donc c'est un sujet sur lequel nous sommes fortement engagés. Nous avons mis en place un cadre et des actions, un guide pour les établissements pour que toute forme de violence soit réprimandée, qu'elle soit détectée et pouvoir accompagner et les victimes et les témoins face à cette situation-là.
Alors, la déléguée générale dit agir depuis plusieurs années, hein, Amélie Le Breton, finalement, vous nous en parliez. On le dit depuis des années, mais on voit que ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant. En tout cas.
Alors, c'est bien que certaines instances commencent quand même à organiser les choses. Il faut apparemment du temps, puisque donc, comme vous le disiez, c'est un système avec ses règles, qui a du mal à bouger. Et donc... peut-être que, en tout cas, il faut l'espérer, que les témoignages qu'on entend là, ou du moins la médiatisation très forte à laquelle on assiste, aura valeur de moteur pour un peu dynamiter ce système qui est d'un autre temps et en plus qui paralyse des carrières, qui n'est bon pour personne.
20h-21h, les informés, Benjamin Fontaine.
Et nous sommes ensemble pendant quelques minutes encore dans Les Informés pour évoquer ce MeToo des armées et ce MeToo dans le milieu hospitalier. Jeannick Halimi, on évoquait l'infectiologue Karine Lacombe qui nous expliquait sur France Info qu'il est important, selon elle, de mettre des visages sur ce qu'il se passe pour porter la cause. Mmh. Elle a évoqué Patrick Peloux parce que des journalistes l'ont amené à en parler. Vous comprenez son point de vue ?
Quitte à parler... qui est le début de tout le déblocage de ce système. Autant donner des noms et des visages, si vous voulez, mais enfin, ce sont les noms qui comptent, bien évidemment. Encore faut-il les donner à bon escient. Bon, laissons faire la justice. Alors, pour le coup, je ne sais pas s'il y a des plaintes qui sont déposées, mais bon, oublions-le, si vous voulez bien, parce que moi, personnellement, je n'ai pas d'éléments d'information.
Non, bien sûr, mais ce que je veux dire,
mais c'est... Mais oui, c'est important, évidemment, parce que pourquoi ne pas donner des noms ? Encore une fois, il faut laisser faire la police, la justice, mais que ça incarne et qu'en plus, si jamais ça touche malheureusement, des personnes connues, si ça peut provoquer des personnes connues ou l'incarnation d'une institution connue, quel que soit son nom, s'il n'est pas connu, si c'est le grand patron d'une institution quelle qu'elle soit, sans citer de nom parmi toutes celles qu'on vient de citer. Évidemment que ça peut créer une sensibilisation, une prise de conscience encore plus forte, de l'opinion publique, des autres victimes potentielles qui pourraient effectivement être amenées à parler, et puis de casser le système qui se nourrit de l'omerta, qui se nourrit de féodalité, de grands patrons, de mandarins, dans le monde des hôpitaux, qui font pression pour des promotions, en achetant le silence de leurs étudiantes. Mais juste pour terminer, si déjà tout ça, effectivement, en plus, ce sont des institutions, des mondes qui sont considérés comme au-delà de tout soupçon. Les services publics, l'armée,
on a une certaine admiration pour ce monde-là aussi.
De l'admiration pour les hôpitaux, les médecins. On est plutôt redevable aux médecins qu'autre chose. Donc, effectivement, c'est quelque chose quand même qui n'est pas anodin. Mais une fois que tout ça, toute l'omerta saute et que petit à petit, peut-être que les mœurs évoluent, il faut aussi que la police et la justice suivent. Une question de sensibilisation et les procédures prennent peut-être plus de temps que ce que l'on voudrait. Pourquoi ? Parce que il y a trois éléments. Il y a les délais de prescription qui souvent font que les enquêtes, si elles sont déclenchées, font des flops, débouchent sur rien. Il y a aussi les attaques en diffamation qui font partie du droit de la défense. C'est parole contre parole, mais là, ça freine la procédure. Et puis, il y a aussi, on en parlait, la présomption d'innocence. Ouais. On ne peut pas jeter en pâture, surtout lorsque les coupables, entre guillemets, ne sont plus anonymes et portent un nom et un visage, si je puis dire, une image. Toutes ces valeurs-là du droit, même si elles ne vont pas dans le sens d'une accélération de la procédure de justice, sont quand même des verrous extrêmement importants pour que les deux paroles soient entendues et que justice soit faite.
Et il y a parfois une blessure encore plus grande pour les victimes qui n'ont pas le sentiment d'être entendues par la justice, justement, parce qu'elles n'ont pas obtenu gain de cause ou de reconnaissance, justement, de leur préjudice. Et c'est une double punition, une double peine, finalement, pour elles.
C'est vrai.
Amélie Le Breton, vous vouliez ajouter ?
C'est dommage presque d'en arriver là à se dire qu'il faut incarner une culpabilité pour qu'enfin ça bouge. Je trouve qu'il y a quand même une réflexion à avoir dans les institutions, dans les entreprises, dans les secteurs, justement pour que ce ne soit plus un problème systémique. On parlait de l'armée. En fait, l'armée, c'est la grande muette. Ouais. Donc, il n'y a pas de figure, typiquement. On ne connaît pas bien les citoyens, les grandes figures dans l'armée. Donc, les noms ne nous disent rien. Et pour autant, il y a, on le sait, puisqu'il y a des témoignages, un problème dans l'armée. Mmh. Donc, ça veut dire que l'armée doit elle-même avoir une réflexion. Et que, comme vous le disiez, ce n'est pas possible de faire de l'entre-soi. Il faut absolument qu'il y ait justement des règles pour que les victimes, en tout cas celles qui estiment être victimes, soient des hommes ou des femmes, puissent être entendues et qu'il y ait des enquêtes justes qui soient menées.
Et François Ehrenwein, vous évoquiez la hiérarchie qui existe, ce système hiérarchique qui existe. Il y a aussi quelque chose de commun à ces deux corps, c'est le bizutage.
Mais tout ça participe d'une culture d'institution. Voilà. Encore une fois, ce qui est problématique, c'est l'adulation du chef et cette forme de sacralisation qui empêche très souvent la parole de se libérer. Et moi, ce qui me frappe, le deuxième aspect des choses, c'est dans le cas de Manon Dubois. Moi, j'ai été frappé, après qu'elle ait alerté sa hiérarchie, l'espèce d'été noir qui s'est abattu sur les reproches qu'elle faisait à son agresseur. Et ça, c'est quand même le temps de latence. Je me réjouis qu'aujourd'hui, les institutions disent « oui, on va ouvrir des commissions, on va mettre en place des choses ». Mais sur les affaires passées, les faits étaient quand même là, et quand même la pesanteur des institutions a contribué largement à étouffer de véritables scandales.